L'invité du grand entretien de France Inter ce matin publie chez Alary Éditions Les Enfants du Vide, sous-titre de l'impasse individualiste au réveil citoyen. C'est un livre sur le moment politique dans lequel nous sommes, celui où les démocraties vacillent, où la politique semble impuissante, où les populistes, les antisystèmes ont le vent en poupe et sont encore capables de susciter l'attraction, voire la ferveur qui a déserté le reste du champ politique. Comment en est-on arrivé là ? Que faire quand tout se défait. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
On va en parler ensemble. Merci d'être au micro de France Inter. Ce livre, c'est aussi celui d'une génération, celle qui a reçu la démocratie achevée en héritage, qui a cru que désormais c'était bon, que le bien avait triomphé, qu'on pouvait rentrer à la maison après avoir fait une manif no pasaran et être allé s'acheter une paire de baskets. C'est ça un enfant du vide ?
Oui. C'est nous, c'est vous, Nicolas Demorand, c'est moi. C'est toute une génération qui est née dans un monde post-idéologique, post-historique, post-tragique. Et contrairement à nos parents qui sont nés dans une période tumultueuse où la vie était, l'univers était saturé de dogmes, de mythes. Si on était de droite, on croyait au mythe de la nation. Si on était de gauche, on croyait au mythe de la révolution, au marxisme-léninisme. On avait une religion. Et donc nos parents, en fait, ont brisé ces idoles pour pouvoir respirer, pour pouvoir penser librement.
Ils sont battus.
Et ils se sont battus. Et ils ont pris leur marteau et ils ont brisé des chaînes. Mais nous, on est dans une situation complètement différente, complètement opposée même. On est dans le vide d'idéologie, on est dans l'absence de structure collective. On est en fait dans un monde où on doit se prendre soi-même comme horizon de tout dans notre vie. Et c'est ce vide-là que moi je cherche à explorer. Vous avez raison, la ferveur aujourd'hui, elle est du côté des populistes. Mmh. La ferveur, elle est du côté des nationalistes, parce que eux considèrent la politique comme une aventure collective, comme la fabrication d'un « nous ». Comme quelque chose de profondément romantique, en fait. Et face à ça, on a quoi à opposer ? Des tweets qui se moquent de la chevelure de Donald Trump, des polémiques sur les prénoms de Zemmour. C'est ça qu'on a à opposer ?
De
l'indignation morale ou de l'ironie ?
Alors justement, vous ne vous épargnez pas dans ce livre. Vous dites en substance que tout ce à quoi vous avez cru, les droits de l'homme, la certitude d'avoir raison, c'est un point important, la supériorité morale, moi je sais, et vous vous trompez. Tout cela, il faut admettre, non pas que ça n'a pas de sens, mais que ça n'a plus de prise sur la réalité politique d'aujourd'hui. Donc constat d'échec personnel aussi sur vous qui intervenez dans l'espace public très fréquemment.
Bien sûr, c'est un constat d'échec collectif, de la gauche en général, des progressistes, et moi je m'inclus dedans. On a souvent pensé que les droits de l'homme, la morale, finalement aussi le rappel à la raison, ça suffisait. En réalité, la politique, ça peut pas se limiter à ça. Ça peut pas se limiter à la quête de droits. La politique, c'est l'inscription de l'individu dans un projet commun, dans un projet collectif. C'est la promesse de transformation de la société, d'inversion des structures de domination. Et finalement, toute notre idéologie des droits de l'homme, elle a pas su s'opposer au triomphe du néolibéralisme. Elle a pas su s'opposer à la dislocation des structures collectives. Elle a pas su parler, à cet homme que j'ai rencontré et avec qui j'ai eu une conversation qui est au début de ce livre et qui est le principe même de l'écriture de ce livre, qui est un retraité de la sidérurgie en Lorraine, qui vient me voir à la fin d'une conférence et qui me dit « J'ai un immense problème, je n'arrive pas à comprendre mes enfants. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes deux fils, qui sont pourtant plus riches que je ne l'étais à l'époque, votent Front National. Ils ont plus de choses que moi, matériellement, mais ils votent, ils ont peur de tout. Ils ont peur du monde, des Arabes, de l'avenir, et je n'arrive plus à leur parler. » Et moi, j'étais face à cet homme et j'étais sans mots, en fait. J'allais pas me lever devant lui et dresser le poing et dire « no pasaran », F comme fasciste, N comme nazi, ça aurait servi à rien. En plus, il était d'accord avec moi. Et c'est lui-même qui m'a mis sur la voie. Il a dit « mais en fait, ils ont plus de bien que moi. Mais moi, j'avais le syndicat, j'avais le parti, en l'occurrence la SFIO et le PS. Et ceux qui croyaient avaient l'église et eux, ils n'ont rien. Ils sont seuls. » Et c'est de cette solitude-là dont j'ai voulu parler.
La gauche... Elle a raté ça. Elle a raté quoi exactement, Raphaël Glucksmann ? On va faire l'inventaire avant liquidation et voir ensuite ce vers quoi on peut se tourner. Mais elle a raté quoi, la gauche ?
Elle a raté un projet commun, un projet collectif. Elle a raté le virage qui s'est passé dans les années 80. Elle a raté la résistance au thatchérisme. Elle a raté la résistance à cette idéologie individualiste qui s'est imposée comme l'horizon de la cité. Elle s'est convertie, finalement, la gauche. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a accepté que l'homo economicus était l'horizon de toute chose. elle a délaissé le citoyen. Elle a délaissé la promesse qui faisait sa raison d'être.
Mais au profit des individus qu'il faut doter de manière infinie de droits.
Bien sûr,
de droits,
de biens matériels et de droits. Et donc là, on arrive à cette situation où la gauche au pouvoir, au bout de 5 ans, eh bien le bilan en matière de progressisme, c'est la conquête d'un nouveau droit, celui pour tous de se marier. C'est très bien, mais ça fait pas société, ça suffit pas. Elle a raté le fait qu'il y a des nouvelles dominations, qu'il y a des structures sociales qui se cassent, qu'il y a une classe moyenne qui est en crise, et elle a raté cette demande d'inclusion dans un « nous ». La gauche s'est devenue, en quelque sorte, eh bien, le parti, le camp idéologique qui vous renforce dans votre jeu, qui dit « vous avez raison d'être ce que vous êtes, Nicolas Demorand, vous avez raison de vous exprimer en fonction de votre nature, de votre différence ». Mais c'est pas ça la gauche. C'est pas ça la gauche, c'est pas ça la République, c'est quelque chose de plus. Et il y a eu un immense renoncement qui est lié à une forme de confort. Vous savez, moi il y a un texte qui me suit depuis que je suis en âge de lire, qui est un texte de Romain Gary qui se pose la question « Pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi le général de Gaulle à Londres ?» Et il dit « Est-ce que c'est parce qu'elles étaient profondément racistes, antisémites, fascistes, pro-nazis ou vichysoises ?» Non. Il dit « C'est parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. C'est parce qu'elles aimaient trop leur confort. » Et finalement, la gauche s'est enfermée dans son confort. Un confort qui est largement un confort de classe.
Raphaël Glucksmann, vous faites un pas énorme vers les mouvements populistes, anti-système, mettons des guillemets à tout cela. Vous essayez de comprendre quelle est leur dynamique politique et vous dites que ces mouvements ont raison, disent quelque chose de vrai quand ils veulent reprendre le pouvoir, quand ils veulent réaffirmer le primat de l'action politique, quand ils formulent un « nous » précisément, un discours collectif, au lieu de s'adresser à une masse d'individus. Eux seuls, ces mouvements font de la politique aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Salvini fait plus de la politique que les progressistes. Les progressistes se sont convertis à l'accompagnement des évolutions du monde en nous disant « mais c'est beaucoup mieux maintenant, puisque vous pouvez voyager, vous avez Internet, vous avez votre iPad, vous avez votre iPhone, vous vivez une période de liberté extraordinaire ». Et face à cela, eh bien, Salvini et les autres font de la politique. C'est-à-dire qu'ils pensent et ils disent que la cité peut inverser le cours des choses, que finalement la volonté générale, ce qui nous fait en tant que peuple, eh bien, peut avoir son mot à dire sur les évolutions du monde. Et c'est ça le sens de la politique. Si la politique c'est juste épouser l'air du temps, eh bien, fondamentalement, on n'a pas besoin de politique. La politique c'est quand un peuple se réunit et peut influer sur le cours des choses. L'inverser, c'est Machiavel qui dit, la politique c'est finalement s'émanciper de la fortune, du hasard, de tout ce qu'on ne maîtrise pas. C'est un peuple qui se réunit et qui décide de prendre en main son destin. Donc quand les populistes et les brexiteurs, mais ce slogan est repris absolument par tous les mouvements populistes à travers le monde, quand les brexiteurs disent « take back control », reprendre le contrôle, on ne peut pas opposer à ça une forme de mépris qui tend à dire « mais non, mais vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôle, nous avons le gouvernement des experts, nous savons ce qui est bon pour vous ». Non, ce qu'il faut, c'est au contraire développer un projet qui réponde à cette exigence de reprendre le contrôle, réellement redonner du pouvoir aux citoyens. On a vécu dans une illusion, à mon avis, dont l'Union européenne est aujourd'hui le symbole, et pourtant c'est quelqu'un qui est profondément pro-européen qui vous le dit.
Mais c'est un point que vous accordez au mouvement populiste, le fait de dire « vous seul faites de la politique aujourd'hui », qui est un point colossal. Je me mettais dans la tête, d'intellectuels qui peuvent graviter ou réfléchir à ces questions-là autour de ces mouvements populistes, et je me disais si même Raphaël Glucksmann admet ça, c'est qu'on a bien tracé la voie.
Mais parce que la situation est vraiment tragique et que donc on peut pas se contenter de faire des tweets. On peut pas se contenter de... Vous savez, moi j'en fais des tweets pour les contrer les mouvements populistes, des posts Facebook pour les contrer les mouvements populistes. Mais quand on essaye de réfléchir à la situation, quand on écrit un livre, on doit se remettre en cause. On doit se demander pourquoi Salvini, ça marche. C'est pas tellement que lui-même est génial, c'est que il remplit un vide immense qui est notre vide, qui est le vide de discours, de production de nous, de discours, d'horizon de transformation de la société parmi la pensée progressiste. Quand Salvini il va dans un village en Italie aujourd'hui, il y a la moitié du village qui vient sur la place pour le toucher. Est-ce que ça veut dire que ce sont tous des fascistes ? Est-ce que ça veut dire que ce sont tous des gens qui sont nés en levant le bras droit et en criant Sieg Heil ? Non, ce sont des gens qui sont perdus et qui voient en lui une forme de réhabilitation d'un contrôle sur son destin. Et simplement, ce que font les populistes, c'est qu'ils désignent des boucs émissaires pour reprendre ce contrôle. Ils font appel aux pulsions les plus négatives. Mais pour comprendre le succès des Zemmour, des Salvini, des Trump, des Bolsonaro, des Le Pen aussi, eh bien, il faut essayer de comprendre à quel vide ils s'adressent, quelle fonction ils remplissent dans la société.
Emmanuel Macron ne fait pas de politique, Raphaël Glucksmann ?
Emmanuel Macron fait une esthétique politique, c'est-à-dire qu'il rétablit une forme de verticalité, de fonction présidentielle, mais en réalité, toute sa politique vise à accompagner les évolutions du monde. C'est d'un conformisme inouï. Ce qu'on nous présente comme disruptif, c'est en réalité reproduire la politique qui a été menée partout en Occident et qui vise à dire quoi ? Qui vise à dire qu'il faut accepter le marché tel qu'il est, accepter le progrès tel qu'il est dessiné par la science et par l'économie. C'est en réalité se déposséder du moyen de contrôler son propre destin. Et donc moi, ce que je pense, c'est que fondamentalement, Emmanuel Macron, c'est le nom d'un renoncement à la politique. C'est le nom d'un renoncement à ce que la promesse républicaine formulait, c'est-à-dire eh bien, que ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, finalement, sont ceux qui ont besoin de politique, parce que la politique inverse les structures de domination. Et là, elle vient juste les conforter.
Vous en faites le dernier représentant de l'ancien monde et non pas le premier du nouveau.
Oui, oui. Et encore une fois, on a un
voisin. Pas une proposition polémique.
Non, mais on a un voisin qui s'appelle l'Italie, dont on peut apprendre beaucoup. On croit toujours que les Italiens sont en retard en réalité, et c'est malheureux dans ce cas présent. Eh bien, ils sont souvent en avance. On a considéré que Berlusconi était un attardé. En réalité, il s'est métastasé à travers tout l'Occident. On a eu Renzi. Renzi, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va rallier toutes les élites pour préserver le système en place. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Renzi, finalement, tous les gens qui se pensaient dotés d'une raison, d'une compréhension du monde, d'une acceptation de la société ouverte, tous ont rallié Renzi, il n'y a plus de débat, et le seul débat a été porté par les populistes. Mmh. Et après Renzi, on a Salvini et le mouvement 5 étoiles. Moi, c'est ça que je veux éviter en France. Il faut qu'il y ait à nouveau une confrontation politique au sein des gens qui sont favorables à la société ouverte, favorables à l'Union européenne, mais qui comprennent que la continuation du même, eh bien, nous précipite dans le mur.
Raphaël Glucksmann, vous racontez dans ce livre que vous avez rencontré il y a quelques années Donald Trump. La rencontre est baroque, voire surréaliste. Elle s'est déroulée dans quel contexte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous.
Moi, je travaillais à l'intégration européenne de la Géorgie. Et donc, quand le président, auprès du président géorgien, parce que j'avais décidé de m'engager, en fait, dans la défense des démocraties en Europe de l'Est. Et quand le président géorgien a été à New York, je l'ai accompagné, et Donald Trump voulait investir en Géorgie, il avait des projets immobiliers, et donc nous sommes allés le voir pour essayer de lui expliquer les réformes anticorruption qui avaient eu lieu en Géorgie, et il a semblé totalement inintéressé au possible par ces réformes anticorruption, sa seule obsession était de ne pas payer d'impôts apparemment, et on a eu une conversation, mais c'est pas une conversation en fait. Il nous a annoncé, comme ça, en plein milieu d'un exposé dont il n'avait rien à foutre, il nous a annoncé « je serai président ». Et à ce moment-là, je me suis retenu pour pas exploser de rire. J'ai vraiment eu envie d'exploser de rire en me disant « mais ce personnage-là, dont je ne savais pas grand-chose à l'époque à part qu'il était un héros de télé-réalité, ce personnage-là, c'est impossible qu'il soit président ». Et il m'a regardé, il m'a dit « mais je vais être président, et vous savez pourquoi ?» J'ai dit « non, évidemment ». Il m'a dit « because I'm the best, parce que je suis le meilleur ». Et je suis resté bouche bée et scié. Et quand je suis sorti de cet entretien, j'ai vu mes amis démocrates de gauche new-yorkais et je leur ai raconté la scène. Et on a ri.
Aux larmes.
Mais aux larmes, vraiment aux larmes, en disant mais jamais quoi. When pigs fly, l'équivalent de les poules auront des dents aux États-Unis.
Et voilà, il est président.
Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça illustre ? C'est notre déconnexion à ce moment-là. C'est l'incompréhension de ce qui se passait dans nos propres pays. Et si on ne comprend pas qu'il y ait besoin d'une remise en cause fondamentale parmi les élites culturelles et politiques occidentales, eh bien, on va se taper cette vague populiste et nationaliste.
Alors, regardons devant nous, Raphaël Glucksmann, pourquoi l'écologie est l'écologie tragique ? Tragique, pas n'importe laquelle, est-elle, d'après vous, le seul horizon capable de remobiliser le camp, disons-le rapidement, des progressistes dans les démocraties libérales ?
Parce que, déjà, fondamentalement, ce qu'on a perdu, c'est le sens du tragique. C'est-à-dire qu'on a une vision comique du monde. On pense que les problèmes vont s'auto-résoudre. Vous savez, Woody Allen, dans Melinda et Melinda, explique que finalement la différence entre une tragédie et une comédie, c'est la distance qu'on met par rapport aux événements. Et une comédie, eh bien, une femme trompe son mari et à la fin tout le monde s'embrasse. Et ça, dans un immense éclat de rire. Et c'est ça notre rapport au monde aujourd'hui. On a 15 000 scientifiques qui signent un texte dans Biosciences, dans la revue Biosciences, qui est ensuite repris en Une du Monde et partout dans les médias, le 13 novembre 2017, nous disant, 15 000 scientifiques qui nous disent « Demain, il sera trop tard. Nous allons dans le mur. Le monde peut et va disparaître si nous ne faisons rien, notre monde. » Et nous écoutons, et nous sommes saisis d'effroi. Nous parlons que de ça pendant 2 jours, et ensuite nous zappons. Nous passons à autre chose. Et dans ce studio même, vous avez l'événement politique majeur de l'année qui a lieu.
La démission
de Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot arrive et dit 4 fois le mot tragique dans votre studio et place le débat où il doit être, à un problème de système, à un problème qui nécessite une transformation profonde. Quelle est notre réaction? À nouveau, on psychologise la décision de Nicolas Hulot, on transforme ça en psychologie de comptoir, et puis 2 jours après, on zappe, on fait une polémique sur les Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. Et donc cette incapacité, en fait, à saisir la gravité des périls, c'est ce qui nous fait aller dans le mur, c'est ce qui rend en fait toute promesse de transformation sociale non crédible. Parce que si vous voulez vous affronter aux intérêts particuliers, eh bien vous avez besoin d'un horizon de mobilisation. Et on l'a perdu, cet horizon de mobilisation. Le seul horizon aujourd'hui...
Oui, mais ça marche pas, l'alarme écologique.
Le seul horizon
Raphaël
aujourd'hui,
Glucksmann.
C'est l'écologie.
C'est tragique, disait Nicolas Hulot, et je suis seul.
Bien sûr.
Et
bien
je
sûr.
Suis seul, donc l'alarme écologique est pensée comme une contrainte morale supplémentaire. Donc là, on est face à un ensemble vide.
Bien sûr, parce qu'on n'est pas formé pour ça. On nous a formé à être sarcastique et auto-centré et nombriliste. On nous a formé à lire des traités de développement personnel pour savoir comment mieux dormir, comment mieux réussir son entretien d'embauche, comment être heureux dans sa vie. Et tout d'un coup, eh bien, on vient nous réveiller dans notre sommeil individualiste en nous expliquant que le monde court à sa perte. Alors évidemment, on veut pas entendre, mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à alerter. Et il faut surtout expliquer aux gens que la transformation qui est nécessaire, c'est pas une transformation simplement pour sauver la nature, c'est ce qui va nous permettre de créer une société plus juste, c'est ce qui va nous permettre de redonner du sens à l'Union européenne. Vous savez, par exemple aujourd'hui, eh bien la manière dont on défend l'Union européenne, c'est de dire mais attention, il y a 70 ans on a eu le fascisme. Mais non, le sens même de l'Union européenne, c'est d'être la juste échelle pour mener cette transition écologique. C'est ça qui va redonner du sens à la politique européenne.
Allez, on se dirige vers le standard d'Inter. Beaucoup de questions d'auditeurs pour vous, Raphaël Glucksmann. Bonjour Georges, bienvenue.
Bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
J'aimerais confirmer qu'il y a un combat personnel à mener. C'est-à-dire que j'habite au Ray et on va faire le cap des possibles. Cap des possibles avec un tas de débats. Je parle vite, excusez-moi. C'est pour changer la société. Parce que c'est une cause individuelle qu'il faut dépasser pour aller vers l'européen, vers une au-dessus de nous. Et ma question est, c'est au niveau européen, je suis d'accord avec vous, monsieur Glucksmann, si vous savez à quel point ça me fait plaisir de vous entendre. Et je voudrais savoir, on va vers le national-socialisme actuellement, parce que les gens, ils ont besoin d'être assurés au niveau économique, et on défend leur patrie. Alors pour eux, c'est le but ultime, quoi. C'est ça, il n'y a plus que ça comme cause. Et il faut aller dépasser ça. Et moi, mon sujet, bon, je vais me battre pour les européennes, plutôt à gauche, pour un autre destin. Et qui vous voyez pour défendre cet idéal européen? Parce que il y a plusieurs, on est tous pour l'Europe, mais pas la même Europe. On peut pas produire. Rien à faire du PIB. Moi, je veux le PIB du bonheur. Voir des gens heureux qui s'aiment, qui tiennent la main, quoi. Des gens qui se maudissent.
Georges, merci. On va vous laisser dialoguer avec Raphaël Glucksmann. Merci. Qui alors?
Merci, Georges. La première chose, c'est qu'il faut absolument sortir de cette ornière. On nous explique qu'en gros, c'est soit les libéraux, soit les nationaux souverainistes populistes. Et moi, je ne me résoudrai jamais à ça. Il y a une France qui existe et à laquelle aujourd'hui se sent orpheline. C'est la France qui croit à la fois dans les valeurs de solidarité sociale, d'égalité, de justice et qui pense que l'avenir se décide à l'échelle européenne, qu'on a besoin de l'Europe pour répondre à toutes les grandes questions du temps. Et il faut absolument que ces Européens, qu'on va dire de gauche ou progressistes, eh bien, s'expriment et ne s'expriment pas de manière morcelée. Mais ça viendra, à mon avis, d'une mobilisation de nous tous. Il faut se mobiliser dans la société civile. Il faut que les gens qui travaillent sur la transition écologique, qui travaillent sur l'accueil des migrants, qui travaillent sur sur la création d'une démocratie plus participative, que tous ces gens-là qui ont cru même au pacte girondin proposé par Emmanuel Macron d'une décentralisation et d'un renforcement de l'Europe, eh bien, que ces gens-là s'unissent et qu'il y ait un mouvement. Moi, je ne me résoudrai jamais, jamais à ce qu'on se limite à l'affrontement entre les libéraux et les souverainistes.
François-Xavier est en ligne depuis la belle ville de Vannes. Bonjour.
Merci,
et bienvenue.
Mais pas loin d'Auray.
Auray, ben voilà, oui.
Je voudrais dire ceci à Monsieur Glucksmann. Est-ce que pour contrer les souverainistes et les populistes, est-ce qu'il ne faut pas retrouver le sens de l'identité européenne, l'identité géographique, dans ses frontières, et arrêter l'élargissement, par exemple, et une identité aussi historique et civilisationnelle, toutes choses que les défenseurs d'Europe ont un peu écartées en ne parlant que d'économie et de social, sans vouloir dire que l'Europe devait représenter un ensemble géographique et historique avec son identité propre et différent, ce qui pose des questions aussi de l'immigration. Merci.
Merci à vous, François-Xavier. Quelques mots rapides, Raphaël Glucksmann.
Moi, je suis pour que l'Europe, arrive à une forme de protectionnisme européen. Je pense qu'effectivement, l'idéologie du libre-échange absolu a échoué. Je pense que il y a une identité européenne, que cette identité est évolutive. C'est pas une identité figée. Et simplement, effectivement, on a défendu l'Europe comme un marché. On l'a privée de substance, on l'a privée d'âme. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est créer un récit européen, un récit qui donne du sens à la construction européenne. Mais moi, je ne fonderai pas simplement sur l'identité. Je pense réellement que c'est pas dans les tragédies du passé ou même dans l'histoire qu'on va réussir à fonder l'Europe. C'est dans la tragédie en cours, dans la tragédie à venir. C'est ça qui va donner sa légitimité à l'Union européenne. C'est si elle est capable, eh bien, d'affronter le réchauffement climatique, par exemple.
Raphaël Glucksmann, vous formulez à la fin de ce livre un contrat social, un nouveau contrat social. Vous dites que ça n'est pas un programme de gouvernement, c'est le soubassement d'un programme de gouvernement. La dernière page du livre est quasiment la fin d'un discours. Est-ce que vous allez passer à la politique une fois que ce constat-là est fait, que vous avez fait encore une fois le droit d'inventaire et la liquidation d'un certain nombre d'impasses de votre génération? Est-ce que vous allez passer de l'autre côté et défendre ça?
Mais la première étape, c'est les idées.
On est d'accord.
La première étape, c'est les idées.
La deuxième.
La deuxième étape, c'est que on doit réconcilier les idées, une forme de romantisme, de croyance dans les idées, et la pratique politique. Et donc, on va tous être appelés à faire de la politique. On a vécu dans une illusion, qui était de dire, on a un droit de retrait. On peut laisser les politiques faire de la politique et nous mener nos existences. Dans une situation de crise, c'est impossible. Donc,
vous allez vous engager contre le droit de retrait? Est-ce que vous allez vous engager?
Bien sûr que je vais m'engager.
Mais faire de la politique au sens actif?
Je vais faire de la politique, oui, je vais faire de la politique. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Certainement pas en m'engageant dans un parti existant.
En créer un?
En créant des mouvements dans la société civile, oui. Et je vais faire de la politique en investissant le terrain politique. Vous savez, moi j'ai un immense défaut, c'est que je crois vraiment chaque mot que j'écris et que je dis. Et que donc je peux pas écrire un livre comme ça, où j'explique qu'on est dans une situation d'une telle urgence, et ensuite, quoi, je mets le mot fin, et je pense sur quoi je vais écrire le prochain. C'est impossible, c'est inconcevable. Si on pense réellement qu'on est dans cette situation tragique, on doit s'investir. Et de toute façon, ne plus s'investir aujourd'hui, alors que la démocratie est menacée et alors que le monde court à sa perte, ne plus s'investir, c'est aussi un choix. Mmh. C'est un choix de laisser finalement les populistes l'emporter, laisser les populistes incarner le romantisme en politique. Et donc moi, bien sûr, je vais m'engager. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ce qui est sûr, c'est que ce que je veux essayer de faire, c'est que tous les gens qui s'engagent dans leur couloir, dans leur cause, qui vont structurer une vision du monde, eh bien, se réunissent dans un mouvement de la société civile qui propose un projet de société. Et vous avez raison de dire que c'est un projet de société et pas un programme de gouvernement. Pourquoi? Parce que, eh bien, Vladimir Poutine, il pense à 30 ans. Le dirigeant d'Exxon, il pense à 20 ans. Et nous, on serait condamnés à toujours penser qu'à 5 ans, mais c'est s'amputer, on a besoin d'horizon.
Merci Raphaël Glucksmann. C'est un livre qui fait du bien et c'est rare dans ce contexte. C'est un livre qui fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'inventaire d'un échec, mais qui nous épargne le culte du passé, la déploration, le lamento, le c'était mieux avant. Quoi qu'on pense, on peut regarder de près ces enfants du vide qui sont donc à lire chez Alary Éditions. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été au micro d'Inter.